ici 19h à Paris, il est 21h à Tbilissi.
Les mots en pisse.
Et nous sommes dans la capitale géorgienne dès le début de ce journal. Prise de température à la sortie des bureaux de vote avec notre correspondant Régis Janté. Des législatives particulièrement scrutées depuis l'étranger. Des centaines de morts dans le centre du Soudan après une intensification de la violence de la part des paramilitaires FSR du général Emeti. Plus de détails dans ce journal. Les dernières informations également sur les attaques israéliennes sur l'Iran. Cette nuit, beaucoup craignent une extension régionale du conflit. Vous entendrez ensuite les témoignages rares de casques bleus de la FINUL, la force onusienne de maintien de la paix au Liban. Et puis, la fin de cette édition à Madrid, à 2h maintenant du Classico, Real-Barça, rencontre devenue terne ces dernières années après les départs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, mais qui reprend des couleurs avec l'arrivée de Kylian Mbappé et la confirmation d'une nouvelle génération dorée du côté de Barcelone. C'était jour de vote ce samedi en Géorgie. Près de 3 500 000 personnes appelées aux urnes dans le cadre des législatives. Les bureaux de vote ont fermé leurs portes il y a une heure, notamment dans la capitale, Tbilissi, où vous vous trouvez. Régis Janté, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Régis, comment s'est déroulée cette journée de vote? Quelle est l'ambiance sur place? Et surtout, a-t-on des premières indications sur les résultats?
On a des premières indications, mais il faut encore s'en méfier beaucoup puisque ce sont simplement les sondages à la sortie des urnes et chaque parti clame la victoire et on n'a aucun résultat officiel pour le moment. L'enseignement tout de même que donnent ces premiers sondages à la sortie des urnes, c'est que le pouvoir s'accorde beaucoup moins de voix et de pourcentages qu'il ne s'en vantait ces dernières semaines et ces derniers jours, et cela laisse augurer d'une défaite ou d'une défaite relative en tout cas de la part du pouvoir, mais cela sera confirmé dans les prochaines heures avec les premiers résultats officiels, sachant que le vote s'est déroulé pour à peu près 90% des électeurs de façon électronique, à l'intérieur du bureau de vote, mais sur une machine électronique, donc ce qui permettra a priori un dépouillement plus rapide. Le vote s'est déroulé plutôt bien dans la plupart des 3000 bureaux de vote. Cela dit, il y a quand même eu beaucoup de violence, de tensions dans une quarantaine de bureaux de vote, ou à l'extérieur en tout cas, il y a eu des tensions, des bagarre. Le siège du principal parti d'opposition a été attaqué par une quinzaine de personnalités proches du pouvoir ce soir. Donc on sent que la tension reste vive dans le pays, alors qu'on est dans une ambiance effectivement de grands changements géopolitiques qui inquiètent beaucoup de gens et ce qui provoque beaucoup de violence et de tensions dans la société géorgienne.
Régis Janté à Tbilissi pour RFI. La Géorgie européenne l'emporte avec 52% en dépit des tentatives pour truquer le scrutin. Affirmation à l'instant de la présidente. Information bien sûr à confirmer. Au Soudan, les paramilitaires FSR, force de soutien rapide du général Emeti, sont désormais accusés de se livrer à des massacres de civils dans plusieurs villages de l'état de Jezira dans le centre du pays. Bonsoir Florence Maurice.
Bonsoir.
S'il est pour l'heure difficile de dresser des bilans humains précis, des sources locales évoquent déjà des centaines de morts.
Oui, la semaine a été sanglante dans cet état situé au sud de Khartoum. Parmi les villages attaqués, il y a ceux de Al-Saïra et Azraq. Selon le comité de résistance d'un village voisin, les paramilitaires des forces de soutien rapide y ont imposé un siège total aux habitants et multiplient les exactions contre les civils. L'accès au terrain est impossible et les communications sont coupées. Il est donc difficile d'établir des bilans. Mais à en croire les listes de victimes diffusées par les habitants, rien qu'à Al-Saïra, on comptait déjà ce matin plus d'une centaine de morts et de nombreux blessés. Les attaques contre des civils dans cette zone ont débuté dimanche dernier et se multiplient depuis. Il s'agirait d'une opération de représailles de la part des RSF après que leur commandant régional a décidé de faire défection pour rejoindre l'armée régulière. Selon le syndicat des médecins soudanais, le degré de violence est tel que les opérations de sauvetage pour venir en aide aux blessés sont devenues impossibles. Le syndicat appelle les Nations Unies à faire pression pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires vers des villages sûrs.
Florence Maurice du service Afrique de Radio France Internationale. C'était la principale actualité du jour à l'international. Cette nuit, l'armée israélienne a enchaîné 3 vagues d'attaques sur des sites militaires en Iran, un peu moins d'un mois après l'envoi par l'Iran de près de 200 missiles missiles sur le territoire de l'État hébreu. Les détails de cette attaque israélienne commencent à filtrer, mais au compte-gouttes, Michel Paul, depuis Jérusalem, a récolté les dernières informations sur cette opération nommée « Jour de pénitence ».
Repoussée à plusieurs reprises, notamment en raison des fuites au Pentagone des plans de l'attaque, la frappe israélienne repose sur un grand principe: toucher le plus grand nombre de cibles en territoire iranien sans provoquer nécessairement une nouvelle réponse de la part de Téhéran. En tout cas, les officiels israéliens se montrent très discrets sur les cibles qui ont été visées par une centaine de chasseurs-bombardiers accompagnés d'avions ravitailleurs à plus de 1600 km de leur base. Les médias ici citent des sources militaires anonymes qui expliquent que dans un premier temps, l'aviation israélienne a neutralisé une dizaine de batteries clés de la défense aérienne iranienne, notamment des S-300 russes aux abords de l'aéroport international de Téhéran, mais aussi des systèmes déployés en Syrie et en Irak. En tout, une vingtaine de sites ont été ciblés lors de vagues ultérieures, dont plusieurs fabriques de missiles et de drones. Selon des sources non confirmées, une des frappes visait Parchin, une base de missiles balistiques non loin de Téhéran, où se dérouleraient également des essais liés au programme nucléaire iranien. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et depuis ces trois salves, les réactions sont très nombreuses. Celles plutôt rares des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït ou encore les Émirats Arabes Unis ont condamné les frappes israéliennes, mettant tous en garde contre une extension du conflit, une escalade crainte par les chancelleries occidentales. Paris, Berlin et Madrid appellent toutes les parties du conflit dans la région à s'abstenir pour éviter tout engrenage dangereux. Les bombardements israéliens se poursuivent sur la bande de Gaza et sur le sud du Liban, principalement. Le Hezbollah libanais a qualifié l'offensive israélienne sur l'Iran comme une escalade dangereuse et assure avoir visé à la roquette 5 zones résidentielles du nord de l'État hébreu. Et entre les bombardements israéliens sur plusieurs territoires et ceux des combattants du Hezbollah sur l'État hébreu se trouvent les casques bleus de la FINUL, la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban. Sophie Guignon a pu s'entretenir et recueillir la parole rare de soldats onusiens français sur place. Ils décrivent la violence des affrontements et disent croire en l'importance de leur mission.
Bombardements et invasions terrestres israéliennes contre tirs de roquettes du Hezbollah. Les casques bleus sont des observateurs en première ligne de la guerre. Le lieutenant Imran est chef de peloton, il dirige les patrouilles de reconnaissance.
Dans un même village, on peut avoir des quartiers détruits ou des maisons de manière sporadique. Il y a des débris, on voit les réseaux de communication qui sont endommagés, avec des câbles qui jonchent la route. La mission en devient que plus importante parce que chaque jour, on découvre de nouvelles maisons détruites et des nouveaux axes qui sont obstrués par des débris.
Mais ces dernières semaines, Israël a exigé le départ de la force de l'ONU et attaqué plusieurs de ses bases, faisant au moins 5 blessés. Le colonel Christophe Morin est le commandant des 700 soldats français.
Si l'armée israélienne se donne du mal pour décrier ou dénigrer aujourd'hui la FINUL et son action, c'est aussi probablement parce que la FINUL a une forme d'efficacité, une forme d'utilité, en cela qu'elle gêne la reprise des hostilités. C'est une forme de limitation à l'escalade, même si ça n'a pas empêché le déclenchement du conflit.
Ni capable d'arrêter la guerre, ni faiseuse de paix. La FINUL est les yeux et les oreilles de la communauté internationale au sud du Liban. Sophie Guignon, Beyrouth RFI.
Allez, du football pour refermer ce journal. Week-end de classique en Europe. Le Real Madrid reçoit ce soir le FC Barcelone, leader de Liga après 11 journées. Un match qui a eu une saveur encore plus particulière cette saison avec l'arrivée de Kylian Mbappé et la confirmation de l'émergence d'une nouvelle génération dorée du côté de Barcelone. Pierre Chaperon à Madrid pour RFI.
Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham d'un côté, la jeunesse du Barça de l'autre, incarnée par Lamine Yamal, 17 ans, ce classico semble symboliser une nouvelle ère, un changement d'époque pour Juanma Sanchez, journaliste pour la Radio Nationale.
Depuis que Messi et Cristiano Ronaldo sont partis, la dynamique a changé. Maintenant avec Mbappé au Real et les jeunes du Barça qui sont très bons, c'est un nouveau classico qui commence. Il y a moins de différence entre les deux équipes.
Une force collective barcelonaise qui vient de battre le Bayern 4-1 mercredi. Pas de quoi être impressionné dans la capitale pour Andrés, supporter du Real de 52 ans. Oui, le Barça a une belle génération, mais le Real reste au-dessus.
Ce sont eux qui doivent avoir peur, pas nous. On est l'équipe à battre, le meilleur effectif du monde. Le Real, c'est un passé, un présent et un futur. On peut gagner ce que l'on veut.
Au-delà de l'histoire, l'histoire, le Real n'a qu'un objectif, l'emporter et rattraper son rival du soir au classement. 3 points séparent Madrid de Barcelone. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Real Madrid-Barcelone, coup d'envoi à 21h demain. Un autre classique, cette fois en France, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. 19h10 ici à Paris. Excellente suite des programmes.